L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui plonge. Vraiment, en effet, notre invité étudie les fonds marins, le sol des mers, le sous-sol même parfois. En particulier, sa thèse s'intéresse aux encroûtements ferro-manganésifères du canal du Mozambique. Elle va donc nous emmener entre l'Est africain et Madagascar dans ce bras de mer baptisé canal, mais qui est en fait une portion de l'océan Indien. Bref, nous allons voyager, nous allons naviguer, nous allons plonger dans la science des minéraux des profondeurs. Encore de la géologie sur Radio Évasion, un peu plus éloignée que celle du géoparc d'Armorique. Mais notre invitée, elle, a bel et bien les deux pieds dans le Finistère, à Plouzané, où elle termine sa thèse avec l'Ifremer, entre autres. Claire Charles, bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre parcours? Comment vous en êtes venue à la géologie marine?
Oui, bien sûr. Alors, donc, comme vous l'avez très bien dit, je suis actuellement en dernière année de thèse. Ça passe vite. Et donc, je travaille au laboratoire des cycles géochimiques et ressources à l'Ifremer. Et je dépends de l'unité des géosciences marines. Donc, je n'ai pas eu un parcours universitaire. Initialement, je suis ingénieure géologue spécialisée dans les ressources minérales. Et au cours de cette formation d'ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer la recherche au cours de plusieurs projets, notamment un projet au Japon, où j'ai travaillé sur de la minéralogie, de la pétrologie. Et je me suis dit, oh, voilà, c'est ça que je veux faire. Je me suis prise de passion pour la recherche. Et donc, j'ai finalisé mon cursus ingénieur par un stage à l'Ifremer qui a débouché sur ma thèse actuelle.
Alors, l'Ifremer n'est pas la seule institution pour laquelle vous travaillez. D'ailleurs, vous nous direz peut-être ça tout à l'heure. Et vous travaillez donc précisément sur, je l'ai dit, les encroûtements ferro-manganésifères. Alors, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, déjà, c'est très bien prononcé. Voilà,
j'ai
bravo.
Tout bien répété.
Alors, les encroûtements ferro-manganésifères, c'est des dépôts géologiques qui sont riches en métaux et en métalloïdes et qui se forment sur les fonds marins à partir de la précipitation directe des éléments chimiques de l'eau de mer. Donc, ils présentent des taux de croissance très très faibles, de l'ordre du millimètre par million d'années. C'est un des phénomènes le plus lent qu'on connaît sur Terre. Et ils peuvent atteindre des épaisseurs jusqu'à 15 cm, ce qui fait d'eux de véritables archives de la chimie des océans jusqu'à parfois plus de 80 millions d'années.
Ouais, quand ils ont 15 cm, ils ont quel âge en gros, c'est ça, 80 millions d'années
Ouais, bah ça dépend. Dans nos plus belles collections, là, on en a un très beau qui fait 11 cm, qui va à peu près jusqu'à 60 millions d'années. Et puis en fonction, si on a des taux de croissance plus élevés, on aura des âges un petit peu plus inférieurs, 30 millions d'années. Ça dépend vraiment de leur taux de croissance qui varie entre 0,5 mm jusqu'à 8 mm par million d'années maximum.
Ouais, c'est beaucoup plus lent, par exemple, que des stalagmites. Enfin, pour donner une idée, les stalagmites ou stalactites, d'ailleurs, de calcaire dans les grottes, ça va beaucoup plus vite.
Ouais, c'est ça. Vraiment, les encroûtements, c'est comme je disais, c'est un des phénomènes les plus lents sur Terre et c'est ça qui est assez incroyable. Ouais.
Donc, c'est bien du sédiment. Ce n'est pas, par exemple, de la lave qui remonterait. Enfin, c'est vraiment... voilà, parce que les sols, on sait que les fonds marins, ils sont composés de tout un tas
non,
de...
Non, alors, en effet, c'est pas de la lave. C'est pas comme ça que ça se forme. Après, c'est un petit peu plus complexe que les sédiments, en effet, mais ça se forme bien par précipitation des éléments chimiques de l'eau de mer. En fait, ça se forme par accumulation d'oxydes de fer et de manganèse sur lesquels, au fur et à mesure, les éléments chimiques vont venir s'absorber. Et du coup, ça va faire ces concrétions qui vont évoluer et grandir au cours du temps.
Ah oui, ça fait des concrétions, ça ressemble à quoi? Du chou-fleur ou...
Ouais, c'est ça. Mais en fait, on a différentes textures. Donc déjà, il faut savoir que ça se dépose sur des substrats qui peuvent être de nature différente. Donc ça peut être des substrats volcaniques ou des substrats plutôt calcaires, dans des zones où la sédimentation, elle est très très faible, de manière à ce que les encroûtements puissent grandir tranquillement, j'ai envie de dire, sans être...
Oui, il ne faut pas qu'il y ait de perturbations.
Voilà,
quoi.
Sans être perturbés. Mmh. Et du coup, ils vont se former comme ça, un petit peu en mamelon. Donc, ils vont grandir. Et donc, on peut en avoir avec des surfaces très lisses. Et d'autres vont avoir des surfaces très mamelonnées, comme ça, où on va pouvoir avoir des sortes de vagues. Et quand on va faire des tranches dans ces encroûtements, on va bien voir ces lits de dépôt.
Ah oui, parce qu'il y a des rythmes différents. Il y a des moments où ça se dépose moins, des moments où ça se dépose plus, c'est ça?
C'est ça, exactement. Il faut toujours avoir ça en tête. On a voilà, quand ça s'est formé, on n'était pas là. Hein, donc forcément, il y a des encroûtements qui peuvent avoir des lacunes où on n'a pas eu de précipitation. Et puis, des accélérations de taux de croissance. Donc, tout ça, on essaye de le mesurer, justement.
Et il n'y a que du fer et du manganèse ou il y a d'autres éléments encore dedans?
Alors, les oxyhydroxydes, c'est fer-manganèse. Et il faut savoir qu'ils sont très, très riches en cobalt, notamment. On a des taux de cobalt qui sont 2 à 3 fois plus riches que ce qu'on a sur Terre. Donc, c'est très important. Et puis, on a d'autres éléments chimiques très importants qu'on connaît aujourd'hui, comme le platine, le titane, le cérium, le néodyme.
Il y a des métaux rares, par exemple, dedans, c'est ça?
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, des métaux rares, des métaux aujourd'hui où on s'intéresse pour l'économie, bien sûr, hein, qu'il faut pas oublier cet aspect-là. Donc ouais, tout ça, on essaye de tout avoir... d'avoir tous ces éléments-là dans la tête et puis de rien oublier, de tout mettre ensemble.
Et les encroûtements, donc ferro-manganésifères, ouais, j'y arrive, allez. on a compris qu'il fallait un endroit de la planète relativement calme sur le plan aussi bien tectonique que des courants, etc. Donc, j'imagine qu'il n'y en a pas partout. Donc, vous, c'est dans le canal du Mozambique, entre donc, le Mozambique, donc c'est l'Est africain, on va dire, et Madagascar.
Ouais.
Et il y en a ailleurs sur Terre
Oui, bien sûr. En fait, alors, moi, je m'intéresse, comme vous l'avez dit, hein, dans le canal du Mozambique, on pourra y revenir après.
Oui.
Mais des encroûtements ferromanganésifères, globalement, il y en a dans tous les domaines océaniques. À ce jour, et depuis les années 80, on a globalement une petite trentaine d'encroûtements qui sont connus et qui ont été très, très étudiés.
De grande surface
De tous les fonds, oui. Et puis, au total, c'est à peu près 2% du fond océanique qui est recouvert, qui est tamisé de ces encroûtements, donc de ces objets géologiques. Donc, ce n'est pas négligeable.
Ah oui, en effet.
Et, donc voilà, on les trouve à des profondeurs variées, entre 400 et 4000 mètres de profondeur à peu près. Et puis, globalement, ils se développent sur des flancs de monts sous-marins ou alors de monts volcaniques ou encore d'anciens atolls qui se retrouvent aujourd'hui immergés.
Et évidemment, on n'a accès qu'aux encroûtements qui ne sont pas recouverts. Enfin, est-ce que c'est arrivé qu'on découvre des encroûtements sous d'autres sédiments ou Non, enfin, j'imagine que...
Aujourd'hui, non, quand on les drague, parce que donc, quand on est en mer, on les drague avec une sorte de gros panier, on vient les décoller du fond et on les récupère dans un gros panier en maille d'acier. Donc, ils sont à la surface, de la croûte océanique, quoi.
Bon. Et alors, vous les étudiez pour plusieurs raisons, en fait. Donc là, il faut parler peut-être aussi de vos financeurs. Enfin, il y a une raison économique, déjà, pour laquelle vous les étudiez. Enfin...
Oui. Alors, moi, je travaille sur un projet qui a été développé en partenariat entre Total, l'IFREMER et le CNRS, notamment, qui vise à étudier, en fait, les marges passives. Alors, les marges passives, pour faire simple, c'est la zone de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique. Et donc, ce projet-là, il vise à étudier les marges passives en vue de comprendre leur évolution géologique, mais aussi leur évolution sédimentaire. Et en ça, on s'intéresse notamment aux courants marins, forcément, et leur impact sur la sédimentation, et de manière globale, leur impact sur le climat.
Parce que c'est les courants qui déposent quand même ces...
Oui, en fait, les courants, ils peuvent avoir différentes intensités. Et selon leur intensité et leur force, ils ne vont pas avoir les mêmes conséquences et le même impact sur les taux de sédimentation, bien sûr.
Et donc vous l'avez dit, il y a une extraction minière parfois de ces encroûtements. Enfin, pas dans votre cas, mais ça arrive, quoi.
Aujourd'hui, non. C'est encore c'est un aspect qui est... En recherche, hein, on va dire, c'est assez récent qu'on ait découvert cet aspect-là dans les encroûtements. Et puis, il y a tout un protocole à mettre en place pour l'exploitation dans les grands fonds. Donc, c'est encore aujourd'hui juste de la recherche basique, j'ai envie de dire.
Et alors, pour l'aspect recherche basique, comme vous dites, mais c'est loin d'être inutile, on va dire. À quoi ça sert voilà, d'étudier les encroûtements ferromanganésifères?
Alors,
général déjà, oui.
En général, bah, comme je le disais au début de l'émission, c'est des archives, de véritables archives de la chimie des masses d'eau. Et donc, étudier leurs propriétés chimiques va permettre d'identifier les masses d'eau dans lesquelles ils se sont formés, les masses d'eau sous-jacentes. Et aussi, du coup, les voies de circulation des masses d'eau au cours du temps.
Donc, par exemple, la hauteur du niveau de la mer, c'est ça, en fait, quand vous dites d'étudier les masses d'eau. La hauteur et puis les courants, la force des courants, c'est ça?
En fait, alors, si on revient un petit peu avant, on sait que nos domaines océaniques, que ce soit le domaine atlantique, le domaine indien, le domaine pacifique, ont une signature géochimique qui leur est propre. Et du coup, le canal du Mozambique, lui, est une zone de mélange entre les courants atlantiques, qui sont froids, qui arrivent au sud, qui ont une signature géochimique X particulière. Et au nord arrivent les courants indiens, qui sont plus chauds et qui ont une signature géochimique Y, qui leur est propre aussi. Et le canal du Mozambique, du coup, est une zone de mélange entre ces courants-là. Et comme les encroûtements enregistrent la géochimie des masses d'eau, on est capable de lire dans leurs variations géochimiques si on est plutôt actuellement dans une masse d'eau indienne ou alors dans une masse d'eau atlantique, une masse d'eau profonde ou alors une masse d'eau superficielle. Et c'est ces variations-là qu'on va d'abord identifier et qu'on va essayer après de comprendre, voilà, pourquoi on a ces changements de masse d'eau. Est-ce que c'est purement des modifications de chimie ou alors est-ce que c'est des modifications beaucoup plus géologiques? C'est à ça qu'on essaye de répondre et à quoi ils peuvent servir.
Et quel est le lien avec la lecture du réchauffement climatique, enfin du changement climatique pour être...
Oui, alors... dans cette étude-là, quand on regarde les variations de signature, donc elles peuvent être liées à différents aspects, mais notamment à l'impact direct des glaciations et des déglaciations des pôles. C'est-à-dire quand on va avoir des déglaciations et des glaciations, ce grand phénomène de grande échelle va avoir forcément une conséquence sur la chimie des océans, notamment la chimie du domaine atlantique.
Ah oui, ça va quoi? Par exemple, ça va diluer ou ça va apporter...
Par exemple, ça peut apporter plus de tel élément ou moins de tel élément. Et la signature peut être différente. Et donc, nous, dans le canal du Mozambique, on va avoir ces courants atlantiques qui vont arriver au sud. Et donc, on va enregistrer une signature particulière et on va pouvoir se dire, ah ben, à ce moment-là, cette signature, elle est plus basse ou elle est plus haute. Donc, ça peut être lié indirectement ou directement, j'ai envie de dire, aux glaciations et à la déglaciation des pôles.
Donc vous regardez plutôt le passé pour l'instant, c'est ça?
C'est ça. Globalement, il y a plusieurs axes dans la thèse. Il y a un axe où je m'intéresse à la circulation actuelle, j'ai envie de dire, à T0. Donc pour ça, je m'intéresse vraiment aux tout derniers dépôts des encroûtements, les dépôts les plus récents, pour savoir comment ça se passe à l'état actuel des choses.
Donc là, quand vous dites actuel, c'est quoi? C'est depuis 10 000 ans ou non? C'est vraiment...
Ouais, alors en fonction de l'échantillonnage, c'est ça qui est aussi à prendre en compte. En fonction de l'échantillonnage, on échantillonne avec une sorte de micro-foreuse.
Une petite perceuse.
C'est ça. Et donc, selon l'erreur qu'on prend, on est sur entre... j'ai envie de dire 20 000 et 100 000 ans.
Ah oui, donc c'est du T0 assez,
c'est ça,
assez ancien déjà.
Je travaille
et vous
à
êtes
grande
géologue,
échelle.
Voilà,
je travaille à ça. Grande échelle. Oui. Et donc il y a cette partie-là où on reconstruit ce qui se passe genre, donc à T0, entre guillemets, à l'actuel. Et il y a une autre partie où on travaille à une résolution temporelle beaucoup plus grande. Donc comme on en parlait tout à l'heure, où je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis plus de 50 millions d'années. Donc voilà, il y a deux grands axes différents. Et puis au sein du passé, je m'intéresse à la courantologie, mais aussi aux aspects tectoniques qui peuvent influencer de manière assez physique l'évolution des courants.
Et quelle est la tectonique dans cette zone entre Madagascar et Mozambique?
Alors le canal du Mozambique, il est relativement stable depuis plusieurs millions d'années. Enfin, relativement stable, il faut prendre avec des pincettes, mais il n'y a pas eu de grands événements majeurs. Par contre, on sait qu'il y a toujours quelques mouvements, donc il y a des soulèvements tectoniques et puis il y a des affaissements. Et donc, c'est intéressant de pouvoir regarder ça en détail. Dans le cas de soulèvements, par exemple, des fonds marins, ils peuvent créer donc des barrières, des grandes barrières. On a notamment en plein centre du canal la ride de Davy, qui au cours du temps a été surélevée et qui peut du coup créer une barrière physique à l'évolution des courants. Et donc, par exemple,
elle est suffisamment haute pour bloquer un peu
ça,
les courants.
C'est ça. D'accord. Bloquer, par exemple, le courant atlantique qui arrive au sud, elle va complètement le bloquer. Et du coup, on va le retrouver en petite quantité au nord du canal ou alors ne pas le retrouver du tout. Et ça, on est capable déjà de le voir et puis aussi de mesurer les contributions des courants.
Et là, depuis, vous avez déjà des résultats à nous annoncer sur votre examen de ces millions d'années, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, c'est ça. Ça tombe bien, on en parlait juste à l'instant, là. Donc, j'ai publié mon premier papier en septembre dernier et qui relate en effet de la situation subactuelle du canal du Mozambique. Et donc, on s'est intéressé à plus d'une trentaine d'encroûtements qui sont répartis sur 2000 km. Donc au sud, du plateau des Aiguilles au sud, jusqu'aux Glorieuses au nord.
Ah oui, il y a un pointillé d'encroûtement, en fait. Ce n'est pas une grande plaque.
C'est
discontinu, en fait. Quoi.
C'est ça, d'accord. En fait. On a un encroûtement par-ci, un encroûtement par-là, avec une résolution très élevée, puisque sur 2000 km, on a un peu plus de 30 échantillons. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, on s'est intéressé à la signature actuelle. Et on a pu mettre en évidence, déjà identifier les différentes masses d'eau. Donc on a identifié les masses d'eau profondes, les masses d'eau intermédiaires, les masses d'eau de surface. Et puis on a étudié cette rite de dévie, justement. Et on voulait savoir si, à l'état actuel des choses, est-ce qu'elle faisait barrière à certains courants. Et donc on a vu que le courant profond atlantique arrive à circuler dans le canal du Mozambique et que cette rite de dévie n'est actuellement pas une barrière infranchissable et qu'on retrouve du coup une certaine contribution du courant atlantique jusqu'au nord du canal, plus loin qu'on ne le pensait.
Et vous savez dire si la ride est en train de quand même d'augmenter encore en hauteur, par exemple, ou au contraire si elle s'érode, ça vous pouvez le dire?
Alors je peux pas le dire directement avec l'étude géochimique de mes encroûtements. C'est pour ça qu'on collabore notamment avec plusieurs scientifiques. Donc il faut regarder à grande échelle. On a des collègues qui travaillent plus spécifiquement sur la géodynamique et d'autres sur la tectonique. Et donc on travaille ensemble pour pouvoir répondre à ces questions. Ouais.
C'est intéressant ça. Quels sont les autres labos qui sont impliqués? Quels sont les autres scientifiques ou les autres domaines scientifiques avec lesquels vous devez travailler? Vous êtes obligé de travailler.
Alors les collaborations, c'est vrai que c'est important surtout pour une thèse, parce que je le répète souvent, mais on est, bien sûr, c'est une première expérience hein, en recherche, mais on continue encore de se former, encore et toujours de se former. Et donc, c'est important de pouvoir travailler avec d'autres personnes et de ne pas rester enfermé dans notre bureau. Donc, moi, au sein même de mon projet, je travaille avec beaucoup de géologues. Mais en géologie, on a plusieurs spécialités. Hein, on est tous, on travaille pas tous sur les mêmes choses. Donc, la sédimentologie, la sismologie, la tectonique, la modélisation. Donc, tous ces aspects-là sont regroupés dans le projet. Et puis, si on regarde d'échelle un peu plus globale, au niveau national, donc le projet, il englobe plusieurs instituts de recherche nationaux. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le CEREJ, donc à Aix-en-Provence, et notamment avec Didier Bourlès, qui est un physicien nucléaire et qui m'a appris en fait les bases hein, de la cosmologie.
Ah bon ?
Oui, c'est grâce à ça où j'ai pu faire les datations de mes échantillons. Voilà. Et si on regarde encore plus large au niveau international, je pense notamment à nos collègues biologistes qui travaillent en Afrique du Sud et qui s'intéressent à la colonisation de Madagascar par les mammaliens.
Ah ah ! Alors les mammaliens, il faut peut-être expliquer un peu ce que c'est. C'est pas des dinosaures déjà.
Alors en fait, c'est pas mon domaine d'étude, mais il y a des... Donc en ce moment, il y a des recherches qui sont faites sur ça, sur comment les mammaliens, donc hein, des vertébrés qui vont coloniser et pouvoir passer de l'Afrique.
C'était des reptiles qui avaient des mammelles, c'est ça en gros les mammaliens pour, c'était des ancêtres des mammifères si on veut.
Oui, c'est ça, c'est ouais. Ça. Ouais. Mmh. Et donc, c'est intéressant, il y a plusieurs hypothèses là-dessus, on ne sait pas réellement encore comment ça s'est passé.
Madagascar était une île, c'est quelle époque en gros?
Oui, bien sûr, alors là on est à peu près dans de 20 millions d'années, jusqu'à 6 millions d'années, il y a eu une étape clé aussi, on est 15-20 millions d'années.
Et donc Madagascar était déjà une île, et pourtant ces animaux ont réussi à arriver sur Madagascar.
C'est ça.
Donc comment? Voilà.
C'est ça, et donc il y a plusieurs hypothèses, il y a des hypothèses de rafting.
C'est quoi ça?
Les mammaliens ont traversé sur des petits radeaux, ou alors est-ce que les mammaliens, les courants se sont peut-être arrêtés et du coup ils ont pu traverser.
Sur des branchages en gros, pour visualiser, ça serait ça.
Ça peut être ça.
C'est pas eux qui se sont amusés à fabriquer des radeaux évidemment.
Non, bien sûr, c'est ça. Et ou alors, on peut encore avoir, ce dont on parlait tout à l'heure, des soulèvements, ce qui leur a permis de créer des passages, des ponts pour pouvoir rejoindre Madagascar. Donc tout ça, c'est en discussion. Et donc, nos résultats tectoniques, géodynamiques, courantologiques peuvent forcément intéresser nos collègues biologistes, pour pouvoir répondre à ces questions.
Et vous travaillez donc aussi avec les courantologues, par exemple, c'est ça, enfin, les spécialistes des courants marins
Oui, bien sûr. Alors, moi, du coup, je m'intéresse plus aux propriétés chimiques, j'ai envie de dire, des masses d'eau, mais il y a tous les paramètres physiques qu'il faut prendre en compte, comme la salinité, le taux d'oxygène, les températures, bon, tout ça. Et donc, pour ça, je travaille notamment avec des océanographes qui font des modèles de circulation des courants. Et donc, on essaye de voir ensemble si nos modèles collent et puis comment on peut créer et mieux appréhender nos modèles océanographiques et climatiques actuels.
Oui, donc vos recherches contribuent aussi à celles qui intéressent le GIEC, le groupement d'études du climat, c'est ça?
C'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais ouais, bien sûr, on espère que ces données-là et que ces modèles vont pouvoir servir pour pouvoir mieux appréhender notre climat actuellement et pouvoir faire des modèles cohérents. Ouais.
Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire là, d'ici la fin de l'année, pour terminer votre thèse?
Je vais pas m'ennuyer pour ces derniers mois. Il me reste encore quelques analyses à finaliser, bien sûr. Et puis la rédaction, finaliser un papier qui est actuellement en cours, et puis se relancer sur d'autres papiers. Et puis bien sûr, la rédaction du manuscrit. Il ne faut pas oublier aussi, j'espère pouvoir faire un congrès d'ici la fin de l'année. Donc c'est sûr qu'avec le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué, mais tout ça se met en place virtuellement. Donc c'est mieux que rien, même si ce n'est pas l'idéal. Et puis voilà, j'ai terminé quelques objectifs. J'ai terminé l'enseignement, parce que je donne de l'enseignement aussi à l'université et en école d'ingénieur. Donc ça, c'est une bonne étape de franchie aussi. Donc voilà, je vais pouvoir me focaliser sur les dernières analyses et la rédaction, bien sûr.
Et alors, racontez-nous juste votre quotidien de chercheuse. Enfin, alors, vous n'êtes pas vous-même allée dans le canal du Mozambique, c'est ça? Enfin, en tout cas, ce n'est pas vous qui êtes allée chercher les prélèvements. Comment ça se passe, justement?
Alors, oui et non, du coup. Alors non, je ne suis pas allée moi-même chercher mes échantillons, mais j'ai eu la chance l'année dernière, en octobre dernier, de pouvoir participer à une campagne océanographique. Donc même si elle ne portait pas précisément sur mon sujet d'étude, c'était les mêmes. Donc déjà, c'était dans la zone de mon étude. Et puis, c'était avec les mêmes engins, les mêmes protocoles scientifiques et les mêmes objectifs, même si c'était sur une étude différente.
Et alors, c'était comment? Comment ils faisaient alors?
Ouais, c'était, déjà, c'était une expérience incroyable. Hein, il faut le dire, c'est toujours incroyable de partir en mer comme ça pour un mois. Surtout sur le Marion Dufresne, c'était incroyable. Et au niveau des échantillons, donc pour les encroûtements ferromanganésifères ou encore pour les laves, bien sûr, on les drague. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de gros panier en maille d'acier. Donc,
ah ouais.
Très grand, hein, qui fait peut-être un mètre de diamètre, un mètre et demi de diamètre, qu'on va mettre à l'eau et puis qu'on va tracter avec le bateau pendant plusieurs heures sur plusieurs centaines de mètres. Et donc, cette drague va aller taper au fond et va décrocher les roches qui nous intéressent.
On arrive à gratter la croûte.
C'est ça, on gratte et au bout de quelques heures, on le ramène à bord. Et si on est chanceux, elle est remplie. Si on est moins chanceux, elle peut être vide. Et donc, on recommence ultérieurement. Et puis, à partir de là, quand on a nos échantillons, bah, on commence un protocole bien précis.
C'est là que vous sortez la foreuse, c'est ça?
Pas maintenant, mais ça arrive. Alors, dans un premier temps, on trie. Bien sûr, on trie ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et puis, on commence une première description macroscopique. Donc, juste vraiment comme ça. Et puis après, on les ramène à l'Institut. À l'Institut, on refait un tri, on les stocke, on les archive. Et puis, quand tout est prêt et qu'on a bien choisi ce qu'on voulait, c'est là que je passe à l'attaque avec ma microforeuse, où j'échantillonne donc mes encroûtements. Donc j'échantillonne la surface et j'échantillonne aussi la totalité de l'épaisseur, donc pour avoir une sorte de stratigraphie du plus ancien à la base au plus récent. Et avec ça, donc, il faut savoir que dans ma thèse, j'ai plus de 250 échantillons.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Donc ça, c'est juste pour votre thèse, mais j'imagine que là-bas, enfin, c'est à Plouzané, c'est ça, qu'il y a une bibliothèque d'échantillons qui doit être énorme.
Ouais. C'est ça, c'est gigantesque. Ouais.
C'est super.
Ouais. C'est incroyable. Ouais. On pourrait y passer des journées entières.
Et donc, vous les analysez à la fois, donc, plutôt chimiquement quand même, ou les deux, la physique et la chimie, vous regardez tout,
c'est ça. Alors, en fait, je regarde, bien sûr, je regarde avant de m'y attaquer, je regarde de la minéralogie, donc de manière macroscopique.
Donc c'est quoi les cristaux, c'est ça en gros?
C'est ça, déjà à vue d'œil, on peut voir les lamines, on peut voir les différents dépôts, donc tout ça je note, c'est très important. La couleur aussi, pour savoir si c'est plus riche en fer, en manganèse. Et puis après au niveau chimique, donc une fois que j'ai récolté la poudre de mes échantillons, je passe en laboratoire, donc j'enfile ma combinaison, mes surchaussures, les gants, les lunettes,
la cagoule. Il ne faut pas contaminer les échantillons. Quoi.
Tout, quoi, la totale. Et là, je vais donc, ce qu'on appelle attaquer. Je vais procéder à une attaque avec des acides sur mes poudres afin de tout dissoudre. Et à partir de là, ça fait une solution mère, ce qu'on appelle en chimie. Et ma solution mère, elle va me servir pour différents panels d'analyse. Donc, je peux faire des séparations élémentaires et m'intéresser qu'à un élément précisément. Je peux m'intéresser qu'aux terres rares, je peux m'intéresser qu'aux éléments majeurs. Et donc, au final, c'est peut-être plus de 6 protocoles différents sur 6 instruments d'analyse différents. C'est incroyable, ouais.
Un travail de chercheuse, quoi, de patience.
C'est ça. Ouais.
Bon, Claire Charles, merci beaucoup d'être venue nous raconter tout ça. C'était très intéressant.
Merci.
Et puis, on vous souhaite une bonne continuation et une bonne thèse déjà pour la fin de l'année.
Merci beaucoup, c'est gentil.